Donc j'espère que vous êtes tous bien installés, confortablement.
J'ai pas eu mon cassoulet.
Et on va pouvoir commencer. Alors, voilà, le premier texte de ce soir s'appelle Le souffle du juste. Il était une fois, dans une grande maison du quartier le plus riche de la ville de Nefald, un homme riche, très riche. Cet homme n'était pas du tout apprécié par les habitants de la ville. Quel que soit son lieu de passage, les gens détournaient le regard et l'évitaient à tout prix. Le problème était qu'il prenait les gens de haut, du fait qu'ils soient plus riches que tous les autres habitants. Selon lui, tous ceux n'habitant pas dans le même quartier que lui n'existaient pas, et n'étaient que des gens sans intérêt. Seulement, un beau jour, un enfant sans peur vint à sa rencontre dans une ruelle et lui dit « Vous n'êtes qu'un méchant monsieur. Tout le monde vous déteste. Je vous déteste. Vous verrez bientôt, quelque chose de grave vous arrivera, et ce sera bien fait pour vous. On sera enfin tranquille, et tout le monde vous oubliera. » L'homme, ne prêtant pas attention au jeune garçon, s'en alla sans broncher. Toujours avec son sourire cupide, ce dernier rentra chez lui et alla se coucher. Sûr de lui et oubliant ce que le garçon lui avait raconté plus tôt dans la journée, il s'endormit comme un loir. Ce n'est qu'à ce moment-là que le bourgeois entendit un homme crier dans la rue. « Au secours ! Au feu ! Au feu ! Allez aider les gens du quartier de la Basse-Ville ! Dépêchez-vous, il y a déjà des blessés !» Ayant entendu le mot « Basse-Ville », l'homme riche ne leva pas le petit doigt et resta couché bien tranquillement. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il se rendit compte de ce qu'il se passait réellement. Un rugissement retentit à travers toute la ville. Il fut si puissant que l'homme en tomba de son lit. Apeuré, il alla vérifier ce qui se passait dehors. En regardant par la fenêtre, une vision d'horreur vint le frapper de plein fouet. De ses yeux écarquillés, il vit un dragon. Un immense dragon noir aux yeux violets. Il crachait du feu partout. Toute la ville était en proie aux flammes. Les habitations s'écroulaient, les rues étaient parsemées de cratères. On aurait dit un vrai gruyère. Cependant, quelque chose attira son attention. Ou plutôt un manque. Il ne voyait absolument personne. La ville était comme déserte. Je comprends pas. À un moment, devrait y avoir au moins plein d'habitants, fuyant dans les rues. Pourtant, il n'y a personne, pensa-t-il complètement perdu. Cet homme était tellement aveuglé par la cupidité qu'il n'avait pas fait attention à ce qui se passait dehors dans la basse ville, et les autres quartiers moins riches que le sien. Il n'a pas remarqué que les habitants avaient fui la ville dès l'apparition du dragon. Pendant que celui-ci détruisait tout sur son passage, l'homme, sachant qu'il ne survivrait pas, essaya de se remémorer tous les moments plaisants qu'il eut dans sa vie. Soudain, son visage se figea, puis se crispa. Il ne put trouver aucun souvenir agréable. Il commença à se détester lui-même et se remit en question. Tout à coup, il sentit de la chaleur dans son dos. Il se retourna et vit que sa maison était en feu. À peine eut-il le temps de s'exclamer qu'une déflagration eut lieu tout proche de lui, et la maison explosa. Puis plus rien. Un grand silence se fit entendre. Le noir complet. Quelques secondes passèrent et un soubresaut. L'homme se réveilla, tendu, droit comme un piquet. Oh, la barbe ! Quel cauchemar, pensa-t-il. À partir de ce jour, cet homme changea du tout au tout. Il devint gentil avec les gens. Il aidait tous ceux qui en avaient besoin, que ce soit en donnant un peu d'argent aux pauvres ou en donnant de son temps et de sa personne. Et les gens le lui rendaient bien. Il se faisait enfin d'agréables souvenirs. Ainsi, lorsque le dernier jour viendrait, il ne serait pas aussi démuni que devant ce terrible dragon. Alors ça, c'était le premier texte de cet étrange manuscrit. Mais il en contient un autre. Alors celui-ci, il s'intitule « Le petit fermier qui buvait du lait ». Dans le loin pays de Callahan, un jeune fermier vivait paisiblement. Il passait toute sa journée au pâturage à surveiller d'un œil distrait son unique vache en sifflotant au pied de son arbre. Le pauvre animal était frêle, presque rachitique, mais Jean, le jeune fermier, en tirait les quelques pots de laine nécessaires à sa pitance. En effet, Jean était connu dans tout le village pour sa paresse, les habitants ne faisaient que peu de cas de son régime au croûton de pain sec et au lait. Le petit fermier, quant à lui, faisait fi de toutes ses remarques. Il ne demandait rien à la vie, et elle le lui rendait bien. Après tout, pourquoi se forcer à la tâche quand on pouvait vivre au rythme des oiseaux et de leurs chants ouatés ? Kairos, quant à lui, était un brigand redoutable et craint dans toute la région. Ses attaques étaient réputées pour être des plus sanglantes. Son équipe lui était toute dévouée, et il savait récompenser ses hommes par de grandes ripailles dans les entrailles des innocents. Ces grandes fêtes étaient alors l'occasion de violer et violenter les femmes faites esclaves lors de la bataille. Kairos se disait d'ailleurs que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas célébré la barbarie. En passant par la forêt, ils arriveraient plus vite au prochain village. Ce jour-là, Jean ne se sentait pas bien. Sa vache broutait pourtant tranquillement, comme d'habitude, l'herbe des pâturages. Le soleil aussi brillait bien sagement à sa place, inondant de ses bras chaleureux les villages. Les raies de lumière filtraient au travers de la cime des arbres, lui chatouillant le village. Que pouvait-il donc bien le tracasser autant ? Il tournait et retournait tout cela dans sa tête, sans parvenir à mettre la main dessus. Ses tourments l'agitaient, l'empêchant de trouver la paix qu'il chérissait tant. Il se revint donc sur son séant, quand, enfin, il comprit. Le chant des oiseaux, il ne l'entendait plus. C'était ça qu'il tracassait depuis toutes ces heures. Il se passait quelque chose dans la forêt. Le petit fermier fit un bond et se mit à courir dans tout le village. « Se passe quelque chose de grave dans la forêt !» criait-il aux habitants. « Que quelqu'un aille voir !» Malgré son inquiétude et la vigueur avec laquelle il secouait les villageois, ceux-ci ne le prenaient pas au sérieux. « Qui retourne donc prendre son temps à flâner ?» se disaient certains. « Va-t'en, ici, nous on travaille !» lui jeta la boulangère. Désemparé, Jean retourna tout penaud à son champ. Il était déçu. Personne ne le prenait au sérieux. Pourtant, il ne se moquait pas d'eux. « Ils ne me font pas confiance, car je ne travaille pas comme eux. » se disait-il, tout en refermant la porte de la grange sur sa frêle compagne. Ils vont voir, c'est cher à rien. Kairos et ses hommes n'étaient plus qu'à quelques détours du village. Ce serait un pillage en bonne et due forme, se disait-il. Il fut interrompu dans ses pensées par un petit homme assez maigre. À sa tenue, on aurait dit un paysan. Un pauvre paysan. Halte là, brigand. Revenez d'où vous venez sans faire d'histoire, asséna le petit homme. Tous les hommes de main sanguinaire se mirent à rire, d'un rire tonitruant et gras. « Et qui va nous arrêter ? Toi ?» demanda Kairos. Quelques brigands ramassèrent des pierres par-ci par-là pour lapider le genou. D'un coup, d'un seul, ces brigands firent fuser une pluie de pierres sur le jeune homme. Une telle avalanche a de quoi briser les os du plus costaud des gaillards. S'ensuivit alors un gros nuage de poussière. Les brigands se félicitèrent de ce lynchage en règle. Puis, la poussière retombant, les brigands aperçurent alors le jeune fermier, tout aussi surpris qu'eux d'être encore en vie. Après un court instant, Jean se ressaisit. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il comptait bien ne pas laisser passer sa chance. Alors il lança un « moi » avec véhémence au chef des brigands. Kairos, décontenancé, prit alors la fuite, suivi de près par ses hommes. En rentrant au village, Jean raconta son histoire, mais personne ne le crut. Cela importait peu, lui savait. Et puis, il n'avait jamais eu besoin de cela pour être heureux. Moralité, bien heureux les buveurs de lait, ils savent se contenter de peu. Voilà la deuxième histoire de cet étrange manuscrit.
J'ai un peu aimé.
Et voilà, on arrive au dernier... Dans ce manuscrit, il s'appelle le caméléon. Il était une fois, dans une contrée de l'Arlan originelle, un caméléon nommé Valatu. Ce petit animal vivait au sein des forêts humides de ce monde. Il avait été créé par Skog durant sa conquête de la belle hivernelle pour permettre à son créateur d'observer sa douce durant sa captivité. Bien sûr, il ne pouvait pas s'adresser directement à la déesse et se contentait d'observer pour le dieu des forêts. Cependant, cette mission ayant duré un long moment, le caméléon se surprit à aimer la beauté. À la fin de sa mission, Skog lui permit de conserver son talent de camouflage. Cependant, le caméléon en voulait plus. Une fois retourné dans son milieu naturel, il se mit à passer de longues heures à observer les autres animaux. Le vol des oiseaux, la couleur des papillons. Peu à peu, l'attraction passive qu'il avait pour toutes ces belles choses devint obsessionnelle. Il voulait tout obtenir. À tout prix. Il se mit à dérober les plumes des perroquets, les écailles des poissons de rivière, tout ce qui pouvait le faire mettre en valeur et le faire briller. Il se pavanait dans la jungle tel un roi, attirant l'attention de chacun, se réjouissant de tous ses regards. Au début, les autres animaux riaient de le voir, lui, battu, petit reptile couvert de plumes et bariolé de mille couleurs. Mais cette impression ne dura pas, car il continuait à amasser ses trésors en dépit des autres. Et il voulait toujours plus. Il dérobait maintenant même aux plus grands animaux, s'ils avaient le malheur de le croiser. Son comportement amena les animaux à aller se plaindre à leur créateur Skog. Celui-ci ne fut pas plus intéressé que ça par cette histoire. Il devait beaucoup de sa situation à ce petit reptile qui lui avait permis de gagner l'amour de la déesse de la beauté. Aussi, il ne fit rien. Le temps passa et la situation empirait. Désormais, le camélon se rendait dans les trésors et réserves de tous les animaux et se les appropriait automatiquement, se sachant protégé par le dieu de la forêt. Cette confiance lui donnait des ailes. Et un jour, il décida de s'attaquer à un trésor immense, celui du seigneur du commerce Kramkar. Ce jour-là, il se dépouilla totalement de ses trésors accumulés et reprit son camouflage qu'il avait peu à peu abandonné pour des couleurs qui s'harmonisaient à ses ornements. Il partit ainsi au sein des montagnes qu'il avait quittées de longues années auparavant, lors de la fin de sa mission. Il connaissait les lieux et s'orienta vers le quartier du seigneur sans embûche. Il s'empara de richesses grâce à ses talents naturels. Il emporta nombre de couronnes, pierres précieuses et autant d'écus qu'il pouvait pour s'en retourner dans sa forêt. Là, il para ses écailles de toutes les pierres trouvées et en fut d'autant plus imbu de sa personne. Deux jours, il concurrençait en brillance l'astre solaire, et plus personne n'osait se plaindre de se protéger de Skog. Cependant, Sol Cycle de Solaire et Kramkar commençaient à perdre la face à cause de ce petit reptile orgueilleux. Conjointement, ils décidèrent de mettre un terme à cette histoire, profitant du fait que le protecteur de la forêt portait son attention ailleurs. Ils convainquirent un animal qui subissait lui aussi la concurrence indirecte du reptile. Le roi des cieux, l'aigle. Le plan était simple. Kramkar attira Valatu dans un espace dégagé, loin des arbres, grâce à quelques pierres aux reflets étincelants. L'oiseau n'eut qu'à repérer sa proie grâce à sa bonne vue et à la dérober sans plus de cérémonie. Le reptile fut livré aux deux dieux, furieux de son comportement, qui le dépouillèrent de ses parures. Ils ne retirèrent pas son don de camouflage, mais le condamnèrent pour son orgueil, lui et toute son espèce, à n'être attiré que par les mouches qui désormais formeraient une grande partie de son alimentation. Une fois de nouveau libre, le contre-coup de cette sentence lui porta un coup au cœur, et de retour chez lui, il se laissa glisser dans le sommeil éternel de Domar. Même dans la mort, son esprit continue d'éviter les dieux qui ont provoqué sa chute, et son corps s'est transformé en mousse, fuyant la lumière. Voilà, c'était la fin de ce manuscrit. Nous avons retrouvé ça. Je pense me rapprocher des éditions Mintis pour le faire publier. Je pense que c'est ce sont des récits pleins d'enseignements sur les légendes qui nous ont précédés. Je ne sais pas si on doit y accorder une crédibilité religieuse, mais en tout cas, je pense que ça fera de bonnes ventes.
Oui. C'est très bien, Monier, merci.
Merci beaucoup, Monier.
Merci.
Merci.
Très agréable.
Merci.